quelle société vivons-nous ? Avec Jérôme Fourquet et Jean Viard. Interrogé sur les émeutes qui ont embrasé la France en juin 2023, après la mort du jeune Naël, l'ancien directeur de la DGSE, Pierre Brochand, a dit qu'il s'agissait d'un soulèvement contre l'État national français d'une partie significative de la jeunesse d'origine extra-européenne présente sur notre territoire. Jérôme Fourquet et Jean Viard comptent parmi les meilleurs analystes de la société contemporaine. Je leur demanderai donc, d'entrée de jeu, s'ils partagent le diagnostic de Pierre Brochand. Jean Viard.
Moi, je dirais, au fond, depuis 1954, tous les 10 ans, il y a un conflit entre une partie, souvent d'origine musulmane, maghrébine, de la société. Alors, au début, c'était au moment de l'Algérie française. Après, on a connu 62, les émeutes de 73, etc. C'est-à-dire, rituellement, au fond, la génération montante, issue de l'immigration, mal reconnue en France, au fond, se construit par des affrontements. Et je le dirais comme ça. Et je dirais, au fond, on n'a pas accepté que l'Empire avait laissé une trace dans le corps de la nation, qui est à peu près 20%, c'est les chiffres que donne Jérôme, mais je suis d'accord. Au fond, nos enfants sont d'origine descendants de cette population, 10% en gros des gens vont à la mosquée, c'est les musulmans masculins uniquement, les femmes beaucoup moins, à peu près autant que de catholiques en réalité, dans les pratiques, pas dans les appartenances. Et donc, au fond, tant qu'on ne dira pas que l'Empire est une mémoire positive qui construit une nouvelle population et que l'islam est une grande religion qui a des dérives absolument catastrophiques, mais ils ne sont pas les seuls, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment dans d'autres endroits du monde, et qu'on n'aura pas cette reconnaissance, eh ben la façon pour cette population de s'identifier, ça sera le conflit.
Bien. Cette réponse est claire. Merci Jean Viard. Jérôme Fourquet.
Moi, je partage assez ce diagnostic et on pourrait essayer d'un peu l'approfondir avec un angle géographique et territorial, en regardant les lieux dans lesquels ces émeutes se sont déroulées, qui sont, pour la grande majorité des cas, ce qu'on appelle les quartiers populaires, pudiquement, et donc qui sont les banlieues françaises, où se construisent depuis des années maintenant une relation très conflictuelle entre les forces de sécurité et une partie de la jeunesse de ces quartiers. Et si on revient à la genèse de ces affrontements, c'est la mort d'un jeune homme lors d'un contrôle d'identité, enfin une course-poursuite avec un refus d'obtempérer. Et j'allais dire de manière quasi instinctive, une partie de la genèse de ces quartiers s'est reconnue dans le parcours du jeune Naël, le prénom, l'origine, le rapport conflictuel avec les forces de l'ordre. Et donc, parallèlement à ce que disait Jean Viard sur la longue histoire, on a aussi, je pense qu'il faut prendre en compte, cette relation, encore une fois, très tendue entre les forces de sécurité et une partie de la jeunesse de ces quartiers. Pour rebondir sur ce que Pierre Brochand disait dans cette interview, hein, qui était assez crépusculaire, Pierre Brochand lui parlait de 100 000 à 200 000 émeutiers. Et il présentait cela comme, là aussi, avec un parallèle plus ou moins avoué avec ce qui avait pu se passer justement pendant la guerre d'Algérie, avec ce qu'on pourrait qualifier de 7e vilaya. Vous vous souvenez que le FLN avait 6 vilayas en Algérie, puis la 7e était ici en métropole. Il n'y a pas de 7e vilaya en métropole. Nous, les analyses qu'on a pu mener, on estime qu'on est plutôt à 50 000 émeutiers, ce qui est déjà beaucoup. Mais vous constaterez qu'il n'y avait aucun drapeau, aucun slogan qui ont été proclamés ou qui ont été brandis, et c'était plus une révolte nihiliste. Encore une fois, à la fois l'émeute et l'upillage d'opportunités, régler ses comptes avec la police et l'État, plus qu'un soulèvement organisé, structuré, et l'émanation d'une force politique qui serait naissante.
Oui, mais la question que je vous pose à tous les deux, pourquoi cette volonté de régler ses comptes avec la police ? C'est-à-dire, on parle beaucoup de violences policières, mais les violences anti-policières ont augmenté jusqu'au point où on peut même penser que la peur a changé de camp. Beaucoup, beaucoup de flics sont blessés dans toutes les manifestations, notamment dans toutes les émeutes. Et pourquoi cette focalisation de cette partie de la jeunesse contre les flics?
Parce que un jeune de couleur, pour le dire simplement, est contrôlé 6 fois plus qu'un jeune blanc. Ben, je parle que des hommes, parce que les filles sont très peu contrôlées. Au fond, le rôle de la police, c'est de désigner la ligne de démarcation entre la jeunesse issue de l'immigration, qui est majoritairement noire ou arabe, pour dire les choses directement, et puis l'autre jeunesse. Et donc, du coup, c'est ceux qui sont les gardiens de la frontière. Et donc, l'affrontement se fait sur la frontière.
Ils sont les gardiens de la frontière, donc c'est l'État qui veut maintenir cette frontière.
Bien sûr, parce que les contrôles d'identité, qui sont une histoire, si je ne me trompe pas, de la guerre d'Algérie, parce qu'avant ça n'existait pas, et en Angleterre ça n'existe pas non plus, ces contrôles permanents les mettent à distance d'une façon qui crée effectivement une fonction, je ne dis pas du tout, je n'attaque pas du tout la police, je pense que c'est l'ordre qu'on leur donne, la mission qu'on leur donne de se tenir.
Est-ce que la mission qu'on leur donne n'est pas aussi, et plus simplement, de lutter contre la délinquance, de lutter contre le trafic de drogue, qui s'est implanté dans les quartiers et qui implique nombre de gens venus du Maghreb ou d'Afrique noire. Est-ce que c'est pas ça la raison fondamentale de ces contrôles d'identité, Jean Viard ?
Là, c'est des contrôles d'identité qui ne sont pas liés à des délits. Qu'il y ait des contrôles d'identité autour des points de deal, tout ça, c'est la moindre des choses, je dirais. Mais après, si vous voulez, dans mon analyse de cette situation, c'est pas un hasard si je défends la légalisation du hashish. Je suis en cohérence, si vous voulez.
Oui.
Moi, j'ai travaillé dans les quartiers populaires, j'ai payé mes études dans les quartiers nord de Marseille, je travaillais dans un centre social, j'y ai été élu. Donc, si vous voulez, j'ai une forme de connaissance, y compris une chose qu'on oublie toujours de dire, c'est que c'est le client qui fait le marché, et que vous voyez, dans une ville comme Marseille, le soir, vers 1h, 2h du matin, dans les quartiers terribles, là, qui c'est qui monte chercher le hashish? C'est les jeunes filles des beaux quartiers, parce que si vous envoyez votre copine, elle aura un prix. Donc, du coup, il n'y a pas de violence, là, parce qu'on est sur un marché. Et donc, la question, elle est, moi, je pense que le modèle allemand, le modèle canadien, le modèle portugais devraient nous faire réfléchir sur cette... Je parle que du hashish.
Bon. J'aurais d'autres questions, mais Jérôme Fourquet, pardon.
Alors, j'évoquais les relations très conflictuelles entre, encore une fois, une partie de la jeunesse, parce que c'est pas toute la jeunesse de ces quartiers, et les forces de l'ordre. Alors, qui trouve naissance ces relations conflictuelles? Alors, à la fois dans certaines pratiques policières, mais aussi de l'autre côté, dans un niveau de délinquance, un niveau de criminalité qui est plus élevé dans ces quartiers. Et on a tout de suite, à juste titre, glissé vers la question du trafic de drogue, qui est centrale de mon point de vue, pour comprendre ce qui se passe dans ces quartiers. C'est-à-dire que, contrairement à 2005, aux émeutes de 2005, les émeutes de 2023 ont été beaucoup plus violentes, mais beaucoup plus brèves, et elles se sont arrêtées quand, dans un certain nombre de quartiers, ceux qui donnent les ordres ont un moment sifflé la fin de la récréation. Et qui sont-ils? Ce sont les gros bonnets du trafic qui voulaient que le point de deal se remette à fonctionner, et que les jeunes filles des beaux quartiers, pour reprendre la formule de Jean Viard, reviennent sur les points de deal. Et donc, cette question du trafic de drogue, aujourd'hui, elle constitue un phénomène sociologique majeur qu'on doit affronter de face. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait indiqué, il y a 2 ou 3 ans maintenant, qu'on comptabilisait 4000 points de deal en France. On a mis en place ce qu'on appelle des stratégies de pilonnage pour essayer de démanteler un certain nombre de ces points de deal qui vont se reconstituer un peu ailleurs. Et j'avais essayé de cartographier la géographie des émeutes. Il y a eu 550 communes touchées en 2023, 100 de plus qu'en 2005. Et la propagation géographique de ces émeutes correspond aussi à la propagation et la diffusion du trafic, y compris dans des cités de villes moyennes de ce qu'on pourrait appeler la France périphérique, qui ont connu elles aussi leur phénomène de violence. Dans les endroits où le trafic est le plus implanté, les dealers se sont aussi adossés à ces émeutes pour essayer de faire reculer l'autorité de la République. C'est pas un hasard si à L'Haÿ-les-Roses, la famille du maire de L'Haÿ-les-Roses, Monsieur Jean Brun, a été ciblée à son domicile, parce que ce maire assez courageux avait engagé un bras de fer depuis quelques mois avec des trafiquants, et c'était l'occasion pour ces trafiquants d'essayer de faire reculer l'ordre républicain pour instaurer le leur dans les endroits, encore une fois, où le trafic est le plus installé.
Oui, mais alors, comment expliquer, Jean Viard, ce lien entre le trafic de drogue et une partie de l'immigration, ou des enfants issus d'immigration? Parce que dans les immigrations précédentes, un tel lien n'existait pas. Et le sort des immigrés n'était pas forcément très enviable. La vie était dure, notamment dans les banlieues. Donc pourquoi ce lien ?
Mais si vous voulez, d'abord parce qu'il y a une mondialisation des vices, comme de toutes les pratiques sociales et culturelles. Je veux dire, le jeune qui va passer ses vacances à Alger où il peut fumer du hash, il rentre à Marseille, il peut pas boire de vin, il rentre, il boit du vin, etc. Il y a une mondialisation des vices, et je crois que c'est une chose sur laquelle on ne peut la limiter. Mais c'est comme l'alcool, etc. Il faut des limitations, il faut des politiques, hein, il faut pas ouvrir tous les robinets. Mais ça, je crois que c'est la première question. La deuxième question, j'aime beaucoup les travaux d'Alain Tarius, qui a fait une étude sur quand il y a un jeune au look, on va dire, arabe assis sur une plage, toutes les 10 secondes, il y a un autre qui vient lui dire « t'as du H ». Et il compare ça au signal de la pharmacie, la lampe verte. C'est-à-dire que dans l'imaginaire des jeunes aujourd'hui, celui qui vend de la drogue, c'est un jeune au look arabe, on va dire comme ça. Et d'ailleurs, dans les réseaux, il n'y a pas que des gens comme ça, mais c'est ceux-là qu'on met devant, parce que je dirais, c'est le clignotant de la pharmacie. Bon, donc c'est vrai qu'il y a ce lien, et c'est vrai aussi, il faut dire une autre chose, il y a toujours eu dans ces quartiers de la transgression. Regardez avec les mondes italiens, regardez la mafia, regardez la prostitution, il n'y a pas que la drogue. C'est des quartiers bâtis sur l'échange. Mais d'abord, des échanges non marchands. Je te repeins ta cuisine, tu me gardes ma mère, tu me fais le couche, parce que c'est une économie d'abord parallèle. Après, il y a la drogue qu'on voit, il y a la prostitution dont on parle très peu, qui est un vrai problème, etc. Je veux dire, la délinquance dans les quartiers d'immigration, je pense que ça a toujours existé comme ressource, avec une remarque, c'est des quartiers où il y a plus de jeunes hommes, c'est des familles qui ont plus d'enfants, et le taux de violence, si on le corrèle, bon, je suis pas spécialiste, mais j'ai lu les dossiers là-dessus, il faut faire très attention à l'image, il y a plus de jeunes, donc plus de délinquance, mais chaque jeune n'est pas plus délinquant qu'un autre.
Jérôme Fourquet.
On a un lien géographique, puisque la grosse zone de production du haschich, c'est le Maghreb et plus exactement le Rif. Et donc, de la même manière qu'on avait une spécialisation dans certaines familles corses ou italiennes sur des trafics, y compris de trafic de drogue dans le sud de la France avec la French Connection à une époque, on a là aussi des réseaux rifins avec des Marocains, puis des Algériens qui se sont mis en place. Moi, j'avais essayé de cartographier ce qu'on avait appelé les autoroutes du shit en regardant les interceptions des fameux GoFast qui remontent d'Espagne. Et on voit qu'il y a toute une économie qui s'est structurée avec ceux qui conditionnent, ceux qui transportent, ceux qui convoient, etc., etc. Et que, comme dans toute économie criminelle, on fonctionne d'abord à la confiance, et donc c'est par des réseaux familiaux, amicaux, et c'est comme ça que les réseaux se structurent. Vous regardez ce qui se passe au Benelux, donc en Belgique ou Pays-Bas, on parle de la Mocro-mafia, qui est une mafia marocaine, et qui s'est constituée sur le trafic du haschich, parce que la zone de production historique était située dans ce
oui, mais
dans cette
vous
zone-là.
N'expliquez pas pourquoi ce lien n'existait pas dans les immigrations précédentes.
Parce que dans les migrations espagnoles, portugaises ou italiennes, on cultivait
ou polonaises,
on cultivait pas de cannabis.
D'accord. Et
on n'est pas du tout dans les mêmes quantités de clients. Là, il y a 1 million de gens qui fument du hash tous les jours, 5 millions toutes les semaines. Il y a 50% des jeunes hommes qui ont déjà fumé du hash. On est dans un phénomène de masse qui effectivement dépasse même l'alcool. Et donc on est là dans une inversion. Le vin recule, l'alcool recule, le hash monte, la bière monte encore plus fort.
Et alors, vous dites le hash monte et vous êtes vous, j'en viens pour la légalisation du haschich, et vous donnez les exemples d'un certain nombre de pays, mais on peut prendre la Hollande. La Hollande est extrêmement tolérante vis-à-vis des drogues douces. Il n'empêche que le trafic y prend des proportions terribles et que le problème n'est absolument pas résolu par la légalisation du haschich.
Non, mais la légalisation n'est pas une politique. La légalisation, quand on regarde autour de nous, le Portugal a fait une légalisation, mais avec des discours très durs dans les radios, les médias, en disant aux jeunes, si tu fumes avant 15 ans, 18 ans, tu seras impuissant, etc. Ils tapent à la matraque. Les Canadiens ont une stratégie très différente. Ils sont allés chercher les dealers en tôle. Ils leur ont dit, nous, on va te fournir le hash, mais dans ton quartier. Parce que le problème, c'est où vont les 3 milliards d'argent du haschich? Est-ce qu'ils vont se diffuser dans les mêmes quartiers ou est-ce qu'ils vont être récupérés ailleurs? Il faut une politique globale. Et on n'éteindra pas le problème. C'est comme l'alcool, on peut le cadrer et le rendre supportable.
Alors maintenant, j'en viens au titre de vos deux derniers livres. Jean Viard, vous empruntez votre titre à Martin Luther King.
C'est marqué dedans, bien sûr.
Oui, non, bien sûr. Non. Vous l'empruntez, mais de manière tout à fait honnête. Une émeute est le langage de ceux qui ne sont pas entendus. Expliquez-moi ce titre.
Mais si vous voulez, on est face à une population qui, au fond, n'existe pas. Je vais prendre un grand exemple. Le ramadan commence, je ne sais pas s'ils ont donné l'heure aujourd'hui, on est à peu près au moment où ça va démarrer. On est un pays où il y a peut-être combien de grandes mosquées qui sont des lieux organisateurs des villes, quelle place on a fait à cette religion, à ces croyances, etc. On est sorti un peu de l'islam des caves, mais on n'est pas encore arrivé. Strasbourg vient de faire une grande mosquée. Marseille, moi qui suis marseillais, il y a plus de 200 000 musulmans, la grande mosquée, elle est à Carpentras. Donc, à un moment, la reconnaissance, le respect de cette culture, elle arrive chez nous. Je dis pas que c'est mon choix ou pas mon choix. Il se trouve que c'est la conséquence de l'histoire impériale. Et je dis qu'on ne reconnaît pas cette culture. Et dernièrement, ces gens n'habitent pas des quartiers, ils habitent les faubourgs. On est les seuls pays au monde à parler de quartiers. C'est très important parce que c'est, on les assigne à résidence. Dans les pays entiers, on sait que les faubourgs, c'est là où arrive, je dirais, l'immigrant. Il y bricole, il fait des études plus ou moins bien, les filles mieux que les garçons, et petit à petit, il s'en va. Le but, c'est qu'on traverse le faubourg. Nous, on les a assignés à des quartiers, y compris en leur donnant la propriété de certains HLM.
Alors, je voudrais vous faire une objection et vous me répondrez tous les deux parce que ils sont assignés à des quartiers, ils ne sont pas tout à fait reconnus, d'où la révolte. Révolte contre une certaine injustice qui leur serait faite. Mais prenons le cas, certes limite, de l'égorgeur du père Hamel, du père Jacques Hamel, il y a quelques années. Sa mère est enseignante. Son père travaille dans le bâtiment, une de ses sœurs est chirurgienne, son frère est informaticien et son autre sœur est employée dans un centre de loisirs de la commune de Saint-Étienne-de-Rouvray. Invoquer la question sociale ou l'exclusion ou l'injustice pour expliquer son geste, ce n'est pas remonter de l'effet à la cause, c'est refuser de voir que l'islam lui-même est un fait social. Et que, précisément, son intégration pose de plus en plus de problèmes. Qu'en pensez-vous, Jérôme Fourquet et Jean Viard?
Alors, le cas que vous présentez, en l'espèce, il était djihadiste.
Oui, d'accord.
Mais
c'est vrai, mais...
Alors, une fois qu'on a dit ça, on a une population d'origine ou de confession musulmane qui est très diverse. On se focalise souvent sur la partie significative de cette population qui est radicalisée. On a en France été recordman en termes de départ pour ce qu'on appelle le Cham, l'Irak ou la Syrie. On a plusieurs centaines de individus condamnés pour des faits de terrorisme islamique qui sont aujourd'hui sous les barreaux. Donc on a un volume qui est quand même relativement conséquent. Si vous voulez, ça c'est la pointe émergée de l'iceberg. Et puis on a des dizaines, centaines de milliers d'individus qui sont sur ce discours assez radical. Donc ça c'est une réalité, et ce qui explique que épisodiquement, on a des attaques au couteau qui surgissent en fonction de l'actualité. Donc, il faut regarder ça de manière tout à fait objective. Mais parallèlement, vous avez également toute une partie plus importante de cette population qui, à bas bruit, s'est lancée dans son parcours d'ascension sociale et qui n'aspire qu'à une chose, c'est à son invisibilisation dans la société française. Et donc, quand Jean Viard dit « c'est ceux à qui on ne donne pas la parole », il y en a toute une partie qui ne souhaite pas la prendre. Et qui n'aspire qu'à une chose, c'est d'être dissous comme le morceau de sucre dans la tasse de café, comme l'ont été les enfants des immigrations précédentes. Alors, Jean Viard parlait aussi de ces quartiers où cette population arrive. De mon point de vue, une des différences fondamentales avec les immigrations anciennes, qui étaient des immigrations européennes, bien évidemment, il y a la distance culturelle, le fait qu'on venait d'ère chrétienne ou non, mais il y a un autre phénomène qui, moi, me semble fondamental, c'est le fait que ces immigrations passées ont été contingentées dans le temps. Migration polonaise, c'est une génération, les Portugais, les Espagnols, les Italiens également. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça change tout, parce que dans l'immigration contemporaine, les flux sont persistants et les nouveaux arrivants arrivent toujours dans les mêmes quartiers. Et on a une image qui est toujours la même de ces quartiers, sauf que les publics que vous y voyez, pour reprendre une des métaphores de Jean Viard, ils ont toujours la même couleur de peau, mais c'est plus les mêmes. Et un certain nombre d'entre eux, eh bien, comme les enfants de paysans ou d'ouvriers français, en deux générations, ont accompli leur parcours. Vous citiez Saint-Étienne-du-Rouvray, on pourrait prendre aussi le cas du jeune policier qui est mort devant Charlie Hebdo, qui s'appelait Ahmed Merabet. Les trois premières victimes de Mohamed Merah, à Toulouse, qui étaient des parachutistes français, qui portaient aussi ses noms et ses prénoms. Et donc, on a toute une partie de cette population qui, aujourd'hui, est en train de se fondre dans la société française, une autre qui se radicalise, et puis toujours ces quartiers qui sont les portes d'entrée d'une immigration qui n'est pas régulée et qui continue de se poursuivre.
Jean Viard.
Là-dessus, je rajouterais une idée. Ces quartiers, dans les années 70, étaient structurés par la culture communiste et parfois par des cultures religieuses catholiques, bon, mais surtout communistes, avec les mouvements sociaux, les centres sociaux, etc. C'était ça, le lien social. Aujourd'hui, le lien social, cela a disparu. Ces populations-là, on sent aller s'installer dans le périurbain. Souvent d'ailleurs en emmenant leur vote Front National, ils ont déménagé massivement, et ils ont laissé ces quartiers monocolores. Et les gens qui intensifient en disant on va densifier avec des ouvriers parce qu'ils vont voter communistes, un jour ils ont vu sortir en bas des musulmans qui votaient pas communistes. Et ils ont été très surpris. Donc si vous voulez, c'est ça qui se passe, c'est que ce qui structure ce territoire, c'est devenu la religion, les solidarités religieuses, etc., parce que les autres ont disparu. Et après, il y a le deuxième phénomène que tu dis très bien, c'est qu'au moins la moitié des jeunes de ces quartiers se diffusent positivement. Il y a qu'à voir à la télé, on voit des tas de gens qui ont des noms qui viennent pas de Bretagne. Donc une partie progresse très bien, notamment les filles. Les filles à la deuxième génération ont le même niveau d'études que les filles qui sont là depuis très longtemps. C'est moins vrai des garçons. Et effectivement, arrivent sans arrêt les derniers arrivés, qui donc culturellement sont les plus conservateurs, parce qu'ils arrivent directement de pays où l'islam est souvent dans une période extrêmement réactionnaire. Et donc, je dirais qu'ils tirent en arrière le capital culturel de ces territoires.
Alors, j'introduirai peut-être un peu de contradiction, vous me le pardonnerez. Parce que, tout de même, je cite ici Elisabeth Badinter, la préface d'une France soumise, un livre dirigé par Georges Bensoussan. Une seconde société tente de s'imposer insidieusement dans notre République, tournant le dos à celle-ci, visant explicitement le séparatisme, voire la sécession. Voilà, dit-elle, ce qui se passe. Pierre Brochand considère que vouloir éteindre par l'argent et l'urbanisme des incendies dont le combustible est religieux, historique et culturel, c'est Borloo, dit-il, ça ne mène à rien. Et vous vous souvenez peut-être aussi du rapport de l'inspection Jean-Pierre Aubin sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires. Il dit: les cours sont de plus en plus contestés, Voltaire, Rousseau, c'est contraire à ma religion, Madame Bovary, sa liberté de la femme. Tout laisse à penser que dans certains quartiers, les élèves sont incités à se méfier de tout ce que les professeurs leur proposent, qui doit d'abord être un objet de suspicion, comme ce qu'ils trouvent à la cantine de leur assiette, et ils sont engagés à trier les textes étudiés selon les mêmes catégories religieuses du halal autorisé et du haram interdit. Un dernier exemple. En 1989, avec Régis Debray, Catherine Kinsler, Elisabeth Badinter, Elisabeth de Fontenay, nous avons signé un appel. Le professeur ne capitulait pas. Il y avait deux élèves qui avaient été exclus de Creil, par le principal du collège. On a été attaqués, puis aussi on s'est moqué de nous. Pourquoi monter sur nos grands chevaux, pour un tout petit truc, nos grands chevaux, Munich de l'école républicaine, calmez-vous, etc. Que s'est-il passé au lycée Maurice Ravel, il y a quelques jours, un proviseur a demandé à une élève d'enlever son voile. Elle n'a pas voulu, elle a protesté, et tous les élèves se sont mis en grève contre cette décision. Et les parents d'élèves les ont suivis, et le proviseur est menacé de mort sur les réseaux sociaux. Et les proviseurs et les chefs d'établissement protestent aujourd'hui parce que les menaces s'accumule. Donc je veux bien que tout se passe très bien pour une majorité, etc. Mais quand même, il y a une fracture qui se voit de plus en plus.
Oui, alors
Jérôme Fourquet.
Je disais tout à l'heure qu'on a une population qui est diverse. Une qui, à bas bruit, s'est engagée dans son parcours d'intégration et d'assimilation, souvent en quittant ses quartiers. Et puis une autre frange, 25-30% de cette population, qui campent aujourd'hui sur des positions de radicalisation. Jean Viard parlait de l'islam comme nouvelle norme sociale. C'est bien ça dont il s'agit dans les exemples que vous avez pris sur ce qui est licite, ce qui est illicite en matière alimentaire. Ça régit aussi les relations entre les garçons et les filles, entre les tenues vestimentaires, le rapport qu'on va avoir aux enseignants. Et donc tout ça, bien évidemment, je ne le mets pas sous le tapis. À l'IFOP, on a réalisé des enquêtes qui montrent que 40% des enseignants, et c'était avant l'assassinat de Dominique Bernard, 40% des enseignants nous déclaraient s'auto-censurer parfois pour éviter des problèmes dans leurs cours. Donc ces sujets existent dans certains quartiers, existent dans les établissements scolaires qui sont rattachés à ces quartiers. Effectivement, dans un certain nombre de ces territoires, il y a une volonté politique et religieuse d'instaurer un nouvel ordre, un nouveau code. Mais ce n'est pas un phénomène qui est, j'allais dire, étendu à toute cette population, même si le nombre de ces quartiers est aujourd'hui en croissance et que la puissance de ces mouvements augmente progressivement. Vous avez parlé du lycée Maurice Ravel, mais il y a quelques mois, dans la région à côté de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, c'était dans classe de 6e que des élèves s'étaient offusqués, qu'on ait montré un tableau avec des jeunes nymphes nus. Et donc là, c'était des gamins de 6e. Et donc on voit que les codes sociaux et culturels sont, dans certains endroits, en train de changer. Ça, c'est une réalité. Moi, j'avais écrit un livre qui s'appelait « L'archipel français » pour justement parler de ce fractionnement et de cette partition.
Jean Viard.
La bataille de la laïcité qui a été menée contre le catholicisme au début du XXe siècle, on croyait l'avoir définitivement gagnée parce qu'en gros, on avait installé une situation paisible. Il se trouve qu'arrive une nouvelle religion, portée en plus par des extrémismes militants, et donc la bataille, il faut la recommencer. On croyait que la bataille était définitivement acquise, on a oublié que le peuple avait changé, une partie du peuple. Donc ça, c'est à mon avis la première chose. Effectivement, le combat pour la laïcité, c'est pour ça que sur l'uniforme, je suis pas forcément contre. Parce que c'est un des enjeux, si vous voulez, même si en soi, spontanément, un vieux 68-art comme moi serait pas trop pour l'uniforme, mais n'empêche que je le comprendrais. Et la deuxième chose qui est très compliquée, c'est que la jeunesse est culturellement mondialisée, ce qui renvoie à ce que j'ai dit sur la drogue. Les séries télé qui regardent les films, ils ont une culture, notamment anglo-saxonne, de la communauté. Et comment nous, on articule notre vision, qu'il faut défendre, je ne discute pas du tout, je ne dis pas du tout qu'il faut imiter l'autre, mais soyons sensibles au fait que la culture s'est mondialisée, notamment dans la jeunesse, et que l'écart entre les jeunes, on voit très bien, sur la Baïa par exemple, l'écart entre les adultes, j'allais dire, et les jeunes. Je crois qu'il y a 71% des Français qui sont pour l'interdiction.
Mais seulement 41% des jeunes, dites-vous.
Absolument.
Dans votre religion, jamais vous ajoutez dans une meute et d'un langage de ceux qui ne sont pas entendus.
Qu'est-ce que j'ai ajouté encore ?
Ah, il est temps de penser jeune.
Je pense
qu'il
y a des
questions. Donc vous avez l'air de dire, ben, le combat doit continuer. D'un autre côté, sur la baïa, il faut céder.
Non, je dis pas qu'il faut céder. Je dis qu'il faut, quand on fait une politique, comprendre comment les jeunes pensent la question pour leur apporter la réponse qui peut être efficace. Parce que sinon, on le prend en face. Et le résultat, c'est ce que vous venez de dire. Ils vont voter la grève parce qu'on interdit une abaya. Le combat de la laïcité doit redevenir un combat central, mais en intégrant ces diversités. Donc, en construisant un discours sur la diversité des cultures et sur la force du modèle français, qui est un modèle construit par l'État et par l'autorité de l'État sur des diversités, qui n'est pas du tout le modèle anglais. Nous ne sommes ni une île, ni une monarchie.
Alors, d'un autre côté, dans votre livre « La France d'après », Jérôme Fourquet, vous parlez du vote Mélenchon, notamment, dans certaines communes de la banlieue francilienne, vote aux élections présidentielles. Et les chiffres atteints par Mélenchon sont astronomiques. 62% à Garges-lès-Gonesse, 61% à Saint-Denis, 61% à Gennevilliers, 60% à Trappes, et dans des villes comme Aubervilliers, etc., 60-65%. Plus de 60%. Et donc, là, il y a quelque chose qui est en train de se faire, et nous avons un parti politique qui s'aligne sur la sensibilité dans les banlieues, notamment pour ce qui concerne aujourd'hui le conflit israélo-palestinien qui est entré ainsi en France, une activiste pro-palestinienne qui dénonce le génocide à Gaza et le régime d'apartheid instauré par Israël depuis ses origines se trouve sur la liste des insoumis. Alors, est-ce cela la France d'après, Jérôme Fourquet?
Alors, Jean-Luc Mélenchon avait posté sur son compte Twitter une photo de la place de la République, un jour de manifestation pro-palestinienne, où on avait des drapeaux rouges, mais aussi pas mal de drapeaux palestiniens. Et il avait dit « c'est ça, ou voici la France ». Donc on se dit on est effectivement dans cette France d'après, d'après la grande métamorphose. Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants ont tout à fait perçu et analyser les scores qu'ils avaient réalisés dans ces communes, et plus spécifiquement encore dans les quartiers de grands ensembles de ces communes, puisque quand on est à 60% à Aubervilliers, si vous allez regarder dans les quartiers non pavillonnaires d'Aubervilliers, on va monter à 70 ou 80%. Et ils avaient aussi observé les données d'enquête, notamment de l'IFOP, qui ont montré que 69% des gens qui se déclaraient de confession musulmane, parmi celles et ceux qui avaient pris la peine d'aller voter à l'élection présidentielle, avaient glissé un bulletin Jean-Luc Mélenchon dans l'urne. Et cet électorat-là, aujourd'hui, est une composante importante de l'électorat mélenchoniste. Et les mélenchonistes ont aussi observé que dans ces quartiers, l'abstention demeure plus importante qu'ailleurs. Et ils ressassent en permanence le fait qu'il leur ait manqué 400 000 voix pour accéder au second tour. On rappelle aux auditeurs qu'il y a à peu près 60 000 bureaux de vote en France, donc c'est à peu près 7 bulletins par bureau de vote. Et se dit, voilà, on était à un cheveu de la qualification, et aujourd'hui, notre marge de progression consiste à aller décongeler l'électorat abstentionniste des banlieues, et ils sont persuadés qu'on ne pourra les décongeler, de leur point de vue, qu'en parlant, comme il le dit lui-même, cru et dru, et en prenant des positions qui sont censées être celles qui sont attendues de la part de cet électorat, notamment sur le conflit israélo-palestinien, mais également sur le rapport avec la police. On revient à ce qu'on disait en introduction.
La police tue.
La police tue. Et ils sont persuadés que, pour aller chercher cet électorat abstentionniste des banlieues, contrairement à ce qu'un François Ruffin, par exemple, peut raconter sur « il faut partir à la reconquête de l'électorat populaire du périurbain », eux se disent « non, non, les marges de progression sont dans les banlieues, et pour aller les chercher, il faut que nous soyons alignés sur le soutien indéfectible à la cause palestinienne, à la dénonciation des violences policières, etc. etc. »
Oui, et cela conduit Jean-Luc Mélenchon à dénoncer la manifestation contre l'antisémitisme qui a eu lieu il y a quelques semaines, en disant « ce sont des gens qui se réunissent pour faire l'apologie du massacre ». Donc, il va assez loin dans ce qu'il croit être la pensée des banlieues, et une pensée qui n'est pas forcément minoritaire dans toute cette population.
J'en viens. Non, mais François Hollande n'aurait pas été élu s'il n'avait pas eu le vote de ses quartiers. Le taux de vote des populations immigrées musulmanes était, on a les chiffres miroirs, mais il était considérable. Donc pourquoi ? Parce que ces populations votent d'abord pour ceux qui pourront les protéger du racisme et de l'extrême droite. Historiquement, je veux dire. Qu'après, effectivement, et donc c'est pour ça, après Mélenchon a récupéré ça, notamment le mariage pour tous, je pense, n'a pas favorisé la relation entre la gauche de gouvernement, c'est-à-dire celle de François Hollande, et ses populations, qui étaient généralement très traditionnelles sur des questions de genre et de sexualité. Donc je crois qu'il y a un moment de rupture, moi je l'ai toujours perçu comme ça. Après, effectivement, il y a une tentative d'instrumentalisation par Mélenchon, comme si effectivement tous les gens, en fonction de leur couleur et de leur religion, allaient penser que le pogrom qui s'est produit en Israël n'était pas un pogrom, que le viol des Israéliens n'était pas des viols, etc. Et comme elles étaient blanches, c'était moins grave que d'autres types de viols dans d'autres civilisations à d'autres époques. Bon, c'est une instrumentalisation politique. Moi, je la trouve franchement dégueulasse. Mais je veux dire, si vous voulez, il faut dire les choses comme elles sont. Mais je pense que, en plus, c'est pas évident que ça marche, parce que c'est pas évident non plus que ces populations ont envie d'instrumentaliser dans ce conflit, qui est, d'ailleurs, excusez-moi, il s'est vrai que depuis les violences qui se passent depuis le 7 octobre, en Palestine et en Israël, il est clair qu'en France, finalement, c'est calme. Il y a des dessins antisémites sur les murs, il y a des agressions, je les sous-estime pas du tout. Mais franchement, les quartiers n'ont pas bougé. Donc faut pas croire non plus que tous ces gens, ils ont d'abord envie de travailler, d'avoir une voiture, une copine. Je veux dire, ils ont d'abord un désir, c'est des gens élevés dans notre société, ils ont envie de ça. Ils ont envie qu'on arrête de leur dire, quand on dit qu'ils s'appellent Mohamed, ah ben je te prends pas parce que tu t'appelles Mohamed. Leur première revendication, c'est qu'ils soient traités comme les autres, à un niveau de compétence égal, j'entends. Ce qui n'est pas le cas.
Oui, il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur ce sujet, bien sûr, mais je voudrais maintenant en venir à un terme, Jérôme Fourquet, que vous avez glissé au président de la République lors d'un repas à l'Élysée auquel vous assistiez, je crois, Jean Viard.
Tout à fait.
C'est ce mot, ce gros mot de décivilisation. Alors, racontez-nous un peu le contexte, et ensuite vous nous direz ce que vous entendez par ce terme. Jérôme Fourquet.
Nous avions été conviés avec Jean Viard et deux autres personnes à échanger avec le président et une partie de son équipe sur la question du pouvoir d'achat dans un contexte très fortement inflationniste. Et donc on avait échangé là-dessus, on avait préparé nos copies comme des bons élèves. Et à la fin du repas, c'était au printemps dernier, dans un contexte où une infirmière de l'hôpital de Reims avait été assassiné par quelqu'un qui était fragile psychologiquement. Quelques jours avant, une voiture de police avait été percutée par des gens qui étaient en délit de fuite et qui roulaient à contresens. Et donc, comme souvent, certains médias avaient fait masse autour de la montée des tensions et des violences. Donc, au déboté, à la fin du repas, le président nous avait interrogé sur, et on n'avait pas préparé de choses là-dessus, sur ce qu'on pensait sur cette, ou non, montée des tensions et des violences. Et il se trouve que, moi j'étais en train de finir la rédaction de mon livre, dans lequel je consacre un chapitre à ce que j'ai appelé la décivilisation, en faisant référence aux travaux du grand historien et sociologue Norbert Elias, qui lui avait parlé du processus de civilisation, et qui montrait comment, à partir de la sortie du Moyen-Âge, en Occident, en Europe, d'abord dans les cours royales, on avait diffusé la politesse, les bonnes manières, les arts de la table, mais aussi plus profondément comment on avait mis en place toute une série de mécanismes de refoulement des affects, de canalisation de la violence qui se transmettait ensuite dès le plus jeune âge. Et ce que, il y a des pages magnifiques, Elias appelle le process de civilisation avec... Si on est dans d'autres écoles de pensée, on peut penser au surmoi, etc., etc. Et observant l'évolution de la société française, dans de très nombreux compartiments, je m'interrogeais sur le fait que ces mécanismes, ces butées, ou ces mécanismes de canalisation des pulsions, moindre montée en tension ou en pression, eh bien, semblaient être aujourd'hui moins opérants qu'ils ne l'étaient par le passé. Vous avez évoqué tout à l'heure ce qui se passe dans... le milieu scolaire, mais on pourrait reprendre une formule, dans une forme la plus radicale, et on a parlé aussi tout à l'heure des refus d'obtempérer vis-à-vis des policiers, mais les agressions de pompiers, les agressions d'élus locaux, comment à la RATP on a été obligé de mettre des vitres anti-agression, comment on a développé partout sur les terrains de football amateur des procédures pour essayer de protéger les arbitres, et comment on sent monter que, pas toute la société bien évidemment, mais une partie de la société, je développe ce point de vue dans le livre, pète plus facilement les plombs, comme on dit aujourd'hui vulgairement, ou pète un câble, et d'où provient ce pétage de plomb et ce pétage de câble plus systématisé qu'il ne l'était par le passé. Et donc je m'interrogeais sur le fait de savoir si on n'était pas rentré dans le cycle inverse de celui que décrivait Norbert Elias, et donc c'est pour ça que j'avais parlé de décivilisation. On pourrait, si on veut charger... moins spectaculairement le terme, peut-être parler d'érosion du processus de civilisation qui serait à l'œuvre au regard de ce qu'on peut observer.
Là, on n'est évidemment absolument pas d'accord. Moi, je mets décivilisation dans la même catégorie que décroissance, etc. C'est-à-dire, je travaille à un livre depuis plusieurs années qui va s'appeler « L'individu écologique, naissance d'une civilisation ». C'est-à-dire une société à la fois d'individus qui donc n'ont des appartenances très faibles. Moi, il y a un chiffre qui me fascine toujours, c'est que 63% des bébés sont faits hors mariage dans ce pays. Pour moi, c'est un indicateur majeur du fait que on ne se sent plus obligé de voter, on ne se sent plus obligé de se marier, etc. Est-ce que la société se défait? Non, elle se reconstruit autour d'individus extrêmement libres. Le problème qu'on a, c'est que cette civilisation émergente n'est pas portée ni par les institutions, ni par le discours du politique pour en faire un récit collectif national qui nous amène vers, au fond, un projet. Parce que la France sans projet politique, c'est plus la France, c'est un truc qu'on s'affronte. Et donc là, on a une faiblesse. Pourquoi? Ben parce que les institutions ne trouvent plus leurs bébés avec leurs outils. Parce que les enfants mariés, oui, ils sont très minoritaires. Les jeunes, ah ben, ils veulent pas de CDI. Mais qu'est-ce qu'on fait? On vit dans des mondes discontinus. C'est une extraordinaire liberté, mais qui nécessite des cadres. Et si on veut les remettre dans des cadres, on croit toujours qu'on va remettre les gens dans le mariage. Regardez le réarmement. Quand même, le réarmement, mesdames, au travail, si j'ose dire, ou messieurs, plutôt. Alors qu'il y a des tas d'analyses là-dessus. On pourrait prendre tous ces éléments-là. Il faut avancer avec le mouvement du monde pour que les gens aient un projet. Alors qu'on essaye de les remettre dans le passé. C'est là où, avec mon ami Jérôme, nous sommes assez en désaccord, disons-le clairement.
Vous êtes en désaccord, mais il y a eu aussi une polémique très révélatrice du climat politique et intellectuel autour de ce mot de décivilisation. Lancé notamment par Edoui Plenel. Ah mon Dieu, a-t-il dit. Décivilisation, c'est un mot de Renaud Camus.
Oui, oui.
Renaud Camus. Donc, c'est un mot raciste, puisque maintenant l'association est faite. Mais moi, j'ai une spécificité tout à fait extraordinaire. Je lis les livres de l'auteur dont tout le monde parle, en le détestant et sans le connaître. Ce qui m'amène d'ailleurs à polémiquer avec lui sur certains points. Mais il a écrit Décivilisation, en effet. Pas un mot dans ce livre sur la question de l'immigration, qui par ailleurs l'obsède. C'est le constat, en effet, d'un abandon progressif de l'héritage, notamment pour ce qui est de la langue, effectivement, très maltraitée, et des manières. C'est notamment la disparition des manières qui concerne absolument toutes les classes. Et d'ailleurs, plus personne ne parlera aujourd'hui d'un enfant bien élevé. Et les enfants dans les cafés, dans les restaurants, partout, font exactement ce qu'ils veulent. Mais ça veut dire aussi que nous sommes en effet entrés dans une société des individus, que nous livrons, et là je cite Pierre Manant, tous les contenus de la vie humaine à la souveraineté illimitée de l'individu, sans perspective d'une action commune, et donc c'est un vivre ensemble que l'on célèbre sans cesse, mais sans monde commun. Est-ce que c'est pas ça aussi un des symptômes de la décivilisation?
Oui,
Jérôme Fourquet.
Mais je pense tout à fait, et Jean Viard parlait d'une société d'individus, d'individus qui n'ont jamais, dans notre histoire, joui d'autant d'autonomie et de liberté, mais qui, cette extension du domaine de l'individu et son autonomie, bah, se heurte à l'individu d'à côté. Et donc, le propre du langage, de la politesse, de l'éducation, c'était justement de civiliser, de polisser ces relations inter-individuelles. De ce point de vue-là, on peut essayer de faire la genèse de ce mouvement qui émerge sans doute dans les années 60, avec bon, le mouvement de 68 pour notamment l'influence sur comment on élève les enfants. Mais il y a également, et j'insiste aussi dessus, l'extension du marché comme nouvelle matrice qui va forger les comportements. Vous voyez, une grande chaîne de restauration rapide a pour slogan « Venez comme vous êtes ». Bah, on vient comme on est. Donc, voilà. L'Oréal nous dit « parce que vous le valez bien ». Et tout ça sacralise l'individu. On voit aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec les smartphones. Et donc, c'est comment l'individu qui, et c'est un bienfait, jouit aujourd'hui d'une autonomie dont il n'a jamais joui, arrive encore à respecter un certain nombre de cadres et de règles communes qu'il ne conçoit pas comme étant des contraintes insupportables qui lui seraient imposées. L'année dernière, une psychologue, je crois, ou philosophe, Madame Goldman, avait écrit un texte dans Le Monde qui s'interrogeait sur les limites de l'éducation positive et sur le bienfait ou non de, non pas infliger des châtiments corporels aux enfants, mais, alors je ne sais plus comment on le formule en anglais, mais de les mettre de côté, les mettre un peu au coin. Et le site du Monde a dit que jamais un article sur l'année n'avait été aussi commenté en positif ou en négatif. Et donc on voit bien que cette question de l'éducation primaire des enfants, aujourd'hui, taraude la société française parce que nous sommes à la deuxième génération qui a grandi comme ceci. Et on voit que toute une série de règles ou de codes non écrits mais qui étaient implicites, qui allaient de soi, eh bien, aujourd'hui, ne vont plus de soi et posent toute une série de problèmes à notre vivre ensemble quotidien.
Jean Viard. On pourrait reprendre le mot attribué à Victor Hugo, qui ne doit pas être de lui dire, mais c'est pas très grave, c'est quand le peuple en devient foule. Et au fond, on est dans une société de foule. Et parce que le peuple a des règles, une mémoire, une histoire, etc. Bon. Et puis, on en est sorti. Effectivement, on est une société de foule. Mais est-ce que ces individus sont tout seuls? Non. Regardez, les tribus familiales sont d'une solidarité extraordinaire. Si vous prenez la probabilité de trouver un emploi, elle est plus forte en s'adressant à la tribu familiale qu'à la NPE. Enfin, la NPE n'existe plus, mais disons ça.
France Travail.
Donc c'est pour dire qu'on n'est pas sans structure. C'est pas vrai. Regardez la transmission entre les générations en matière financière, par exemple. Et les solidarités des anciens avec les jeunes, elle est considérable. Donc il faut faire attention au fait que c'est pas parce qu'on sort des cadres d'hier qu'il n'y a plus de cadres. Je crois que ça, c'est fondamentalement faux. Après, un de nos adversaires dans l'éducation de nos enfants, excusez-moi, c'est beaucoup les smartphones.
Ah bah
c'est
ça,
beaucoup ce monde numérique.
Vous non, mais, un
non mais je veux dire,
hein.
On a, c'est vrai qu'on est tous un peu en difficulté pour maîtriser ce type de culture, ce type d'objet. J'ai vu des villes où on est obligé de mettre les feux rouges sur le sol parce que les gens traversent en regardant le smartphone sans voir si c'est vert ou rouge. Donc on est obligé de mettre des lignes vertes et rouges dans le sol pour que le type sur son smartphone ne se fasse pas écraser. C'est-à-dire, mais c'est des adultes ça. Donc je veux dire, on est dans une transformation à ce niveau-là. Moi, je dis, il faut accompagner le mouvement de nos sociétés et ne pas vouloir le freiner. On ne freine jamais le mouvement des sociétés. Ça mène à des populismes terrifiants. Comment on l'accompagne? C'est ce que personne ne fait en ce moment. Donc je ne dis pas, choisissez celui-là, il le fait. Non, les politiques sont en ce moment dans une phase conservatrice, et je pense, au fond, quelle que soit leur couleur politique. Ils doivent accompagner le mouvement des sociétés modernes. On n'a pas le choix.
Peut-être. Là, je vais poser une question à laquelle vous n'attendez pas. Hein? Et c'est l'actualité qui me la dicte. Vous avez vu peut-être cette affiche criarde pour les Jeux Olympiques de 2024, carnavalesque. La croix sur le dôme des Invalides a été supprimée. Qu'en pensez-vous? Est-ce une manière positive d'avancer vers une société post-colonial, ou bien en fait-on trop autour de ce petit fait divers? Jérôme Fourquet.
Alors, je ne veux pas être prêté de mauvaises intentions à ceux qui sont les auteurs de cette affiche. Peut-être ont-ils considéré que face à cet événement qui est vendu comme une grande fête planétaire, il fallait qu'on vienne comme on soit. Et donc, du coup, tous ces signes d'appartenance à notre héritage chrétien soit gommé. Ça, c'est un élément de réflexion. Je prolongerai un peu la chose en disant de manière plus globale, on a, de mon point de vue aussi, un nouveau symptôme de déconnexion entre une partie de nos élites politiques, économiques et médiatiques et le reste de la population sur la focalisation autour des Jeux Olympiques. On entend matin, midi et soir parler des JO dans tous nos grands médias. Et dès qu'on passe le périphérique, c'est quand même pas aujourd'hui la priorité de nos concitoyens. Le président de la République, lors de ses vœux aux Français, le 31 décembre, avait dit, voilà, il y aura les cérémonies commémoratives du débarquement en Normandie, la reconstruction de Notre-Dame. Donc là, du coup, on peut espérer qu'il y ait une croix à Notre-Dame. Et les JO, et donc le président parlait d'un millésime français, que 2024 serait un millésime français. Et moi, de mon point de vue, ces JO, on est un peu dans le village Potemkin, qu'on essaye de repeindre, quitte à enlever quelques vieux symboles, pour masquer un certain nombre de difficultés existantes dans la société.
Mais attendez, effacer quelques vieux symboles, est-ce que ça ne veut pas dire que la France d'après, c'est la France d'après la France?
Alors, c'est une bonne question. Moi, j'appelle la France d'après une grande métamorphose qui fait que effectivement, on a rompu les amarres avec toute une série de nos référentiels de longue durée. Donc, c'est encore une France, mais c'est la France d'après.
Je vous rappellerai une petite église sur une colline en 81 qui n'avait pas de croix non plus et qui a mené le président Mitterrand à l'Élysée. Donc, c'est pour dire que... Mais juste que enlever les croix sur les églises n'est pas un phénomène nouveau. Après, ils auraient pu prendre un autre dessin. Moi, ce dessin ne me... Je vais vous dire ce qui me manque dans ce dessin, c'est le drapeau français. Je veux dire, la France est quand même plus symbolisée par son drapeau que par la croix. La croix fait partie de notre histoire, je ne le dis pas du tout. C'est-à-dire, au fond, on dirait qu'on est à Disneyland, alors qu'en fait, on va être à Paris. Oui. Et donc ça, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Excusez-moi, je ne comprends pas le message. Parce que justement, si on a fait ça à Paris, si on a tout fait pour que ça soit dans la ville, avec tous les problèmes qu'on est en train d'avoir, etc., qui fait que tout le monde râle dans ce pays de râleurs professionnels, effectivement, le sens, c'était quand même Paris, comme cité monde, et c'était la France comme drapeau. Donc c'est ça que j'aurais mis. Moi, j'aurais pas mis cette illustration, c'est clair, mais j'avoue qu'on ne m'a pas consulté.
Non, nous non plus, je crois, Jérôme Fourquet. Mais d'autre part, vous dites, vous, Jean Viard, et nous en aurons bientôt terminé, que il faut construire dans chaque région une grande mosquée. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance aussi de la laïcité, d'une certaine idée de laïcité, à se focaliser sur les signes chrétiens, effacer la marque chrétienne en France pour faire le meilleur accueil possible à l'islam?
Mais la diversité, ce n'est pas d'effacer la culture de l'autre. Je veux dire, l'histoire de la France est une histoire où il y a une communauté juive depuis très longtemps, qui est petite, mais il y a une communauté évidemment catholique, chrétienne, etc., protestante. Il faut pas effacer, il faut dire on s'enrichit de l'arrivée. On s'enrichit du fait que 20% des gens soient des anciens enfants de l'Empire. On s'enrichit d'une nouvelle croyance. Il vaut mieux des gens qui ont une croyance que des gens qui n'en ont aucune, que ça soit celle-là ou franc-maçonnerie ou autre, je n'ai pas forcément religieuse. Donc, considérons qu'on s'enrichit et qu'il ne faut pas avoir peur d'être enrichi.
Vous avez peur, Jean Fourquet? pour finir.
Non. Juste, on constate qu'on voilà, on est dans cette France d'après qui a énormément évolué par rapport à notre, encore une fois, notre référentiel historique.
Bon, ouais, très bien. Merci beaucoup à vous deux. Alors, je rappelle les titres de vos livres. Jean Viard, Une émeute et le langage de ceux qui ne sont pas entendus, pour une pensée postcoloniale positive. Le livre est publié aux éditions de l'Aube. Le vôtre, Jérôme Fourquet, La France d'après, tableau politique, est publié aux éditions du Seuil. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar et Lise Ripoche. À la réalisation, Alexandra Malka. À la technique, aujourd'hui, Christophe Michou. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Le procès de Pétain ». Mes invités seront Julian Jackson et Henri Rousseau. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.